dans le Val. Je vais rappeler brièvement le sujet, seulement le sujet de la semaine dernière, duquel nous allons commencer à étudier. Alors, la semaine dernière, nous avons étudié la paracha de Noach. Et nous sommes arrivés à la fin de la paracha, à un texte qui met en évidence que tout le récit précédent, depuis le début, devait aboutir à Abraham. Effectivement, Abraham apparaît dans le récit, il apparaît donc dans l'histoire, à la fin des 10 générations qui vont depuis le premier homme jusqu'à Noach. C'est Noach qui apparaît, et à la fin des 10 générations qui vont de Noach jusqu'à Abraham, c'est Abraham qui apparaît. Il y a donc une période de 20 générations où la Torah nous a raconté une première tentative de la civilisation humaine qui a échoué. Je vous rappelle simplement que c'est un texte, la paracha de Bereshit et la paracha de Noach, qu'il faudrait étudier pendant des mois, parce qu'il y a là le modèle, la structure, disons, de toute une civilisation humaine. Et les différentes causes d'échec, à cause de l'échec du problème moral, de cette tentative de l'histoire de l'humanité, et aussi, corollairement, les différents sursis qui sont suscités à travers cette histoire, et qui n'arrivent pas quand même à être une aide suffisante pour que l'humanité résoudre le problème fondamental qui lui est posé à travers ce récit, qui est le problème de la relation des personnes humaines dans la société. En effet, en schématisant beaucoup, il faut mettre en évidence le fait que c'est le problème moral qui est posé, le problème moral dans le fait social, la relation des personnes entre elles, que je pourrais vous appeler de différents intitulés, je vais les dire immédiatement, mais je veux que personne ne reste debout. Je veux que quelqu'un se charge, si quelqu'un arrive et reste debout, trouvez-lui une chaise et asseyez-le, pas par terre. Mais débrouillez-vous là-bas à l'entrée. C'est à vous que je parle, hein. Vous êtes responsable. C'est très, je ne sais pas comment dire en français, c'est prévu par la halakha. On n'a pas le droit de rester debout quand les autres sont assis. J'ai inversé. On n'a pas le droit de rester assis quand les autres sont debout. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est d'abord une question de politesse minimum. Alors, je reprends le sujet. Il y a une équation à résoudre qu'on peut appeler de différentes manières l'équation de fraternité. Il s'agit du problème entre Caïn et Abel qui commence le récit de l'histoire de la société humaine dans son échec qui va aboutir au déluge. On pourrait l'appeler le problème de la relation d'autrui à autrui. Mais la relation fondamentale d'autrui à autrui, c'est la relation du frère et du frère au frère, qui est elle-même une première étape d'un problème qui a à résoudre, qui a trois étapes. La relation entre l'époux et l'épouse, la relation entre le frère et le frère, et la relation entre la créature et le créateur. C'est un même problème, mais qui se divise en trois axes, et que nous retrouvons très, très systématiquement dans l'enseignement de la Torah. La relation entre l'époux et l'épouse est un cas particulier de la relation d'autrui à autrui, laquelle est une expérience et une épreuve, une preuve que nous avons à faire de la relation entre la créature et le créateur. Bien, c'est donc un récit extrêmement important et il nous amène finalement à la notion d'une sorte de préhistoire, d'une histoire qui commence avec Abraham. Si la Torah nous a raconté l'histoire qui a précédé l'apparition d'Abraham dans l'histoire, c'est qu'elle veut que nous sachions qu'Abraham n'est pas n'importe qui. Qu'Abraham n'est pas n'importe qui, c'est un thème très important. Ce n'est pas qu'un jour, de manière arbitraire, Dieu aurait décidé de choisir un homme arbitrairement, par grâce, pour ménager l'histoire du salut. Comme dirait par exemple la tradition chrétienne, je schématise beaucoup, Abraham n'est pas n'importe qui. Et nous avons une identité très précise qui nous est expliquée, j'en ai parlé assez abondamment la semaine dernière, c'est l'identité hébraïque. Abraham est un hébreu. Qu'est-ce que c'est que l'identité hébraïque? C'est la raison pour laquelle nous avons un récit aussi circonstancié de l'histoire humaine depuis le premier homme, jusqu'au temps du déluge, jusqu'au temps d'une génération particulière de l'histoire de cette humanité, la génération qu'on appelle en hébreu Dora Pelaga, la génération où l'universel humain, où l'unité humaine a éclaté en nations. Et c'est l'épisode de la Tour de Babel. Et dans la reprise de l'histoire humaine à partir de Noir après le déluge, et là apparaît cette équation, que je cherche un terme en français, cette expression que nous allons trouver sous différentes formes, à laquelle il faut s'habituer. Dans ceux qui sont familiers à la tradition juive sont tellement familiers à ce que je vais dire, je vais encore désigner, qu'ils ne voient pas le caractère très difficile de l'expression en question. Israël, les nations. J'ouvre une petite parenthèse. Nous avons énormément de sujets qui se rattachent à cela. Israël, les nations. Israël d'un côté, l'ensemble de l'humanité de l'autre. C'est, on dit en français technique, c'est une notion polémique, c'est-à-dire agressive. C'est une notion difficile à entendre. Les Juifs sont familiers et ne se rendent pas compte du scandale que ça représente pour une oreille non-juive. Un tout petit peuple, Israël, et de l'autre côté, l'humanité. Faites bien attention au caractère pas évident d'une notion pareille. L'histoire s'entête à nous montrer qu'il en est ainsi. Il y a des moments historiques importants de l'histoire de l'humanité, surtout de l'histoire contemporaine, qui montrent qu'il y a d'un côté Israël, de l'autre côté toutes les autres manières d'être homme, qu'on le veuille ou pas. Même si ça apparaît pas de manière évidente, massive, toujours, il y a de temps en temps des clins d'œil de l'histoire qui montrent que c'est massif et que c'est comme ça. Je crois que il y a dans l'histoire contemporaine en tout cas deux événements qui le montrent. D'abord ce qui s'est passé au temps du nazisme, il y avait vraiment les juifs d'un côté et le monde entier de l'autre, les juifs et leurs amis non juifs, mais c'était les juifs et leurs amis et le monde entier de l'autre côté. Je vois, c'est clair, celui-là. Il ne faut pas oublier cela, que pendant le temps du nazisme, les juifs ont eu beaucoup d'amis, mais ils avaient tous ceci en commun: ils ont été impuissants à empêcher la catastrophe. Il y a pu y avoir des sauvetages individuels, nombreux, grâce à Dieu. Et je crois qu'il faut être rassuré qu'il y a un peu de bien dans ces grands événements du mal. Ça rassure, il y a quelque chose derrière. Mais ça, c'était donc le temps du nazisme. Et je crois aussi que nous avons présent en mémoire ce qui s'est passé au temps de la guerre des Six Jours. Il y avait Israël et les Juifs d'un côté et le monde entier de l'autre. Israël et les Juifs et leurs amis d'un côté, et le monde entier de l'autre. Mais il en reste un moins, c'est une notion qu'on manie très souvent sans se rendre compte de son caractère polémique, surtout encore une fois pour une oreille non juive, ou pour une oreille juive qui serait attentive à entendre ce qu'elle entend. Et comment comprendre ça? D'un côté, une toute petite société humaine, les Juifs, Israël, et de l'autre côté, l'humanité entière. Et ce qui se passe actuellement, bon, je ne vais pas entrer dans trop de parenthèses, montre aussi qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux. Ce qui se passe ici met en branle la planète entière. Donc, eh bien, comme nous le voyons à différentes occasions, la plupart du temps, là je vous cite un terme du Rav Kook lui-même, nous ne sentons ça que incognito. Mais il y a des moments de l'histoire où ça se dévoile de manière massive. Je reviens au sujet. Eh bien, c'est que dès le moment de la dispersion de l'unité humaine en nations, Dora Pelaga, ça vient du terme hébreu qui signifie diasporiser, leit paleg, apparaît cette différence entre l'identité hébraïque représentée par l'ancêtre d'Abraham, le fondateur de la nation des Hébreux, qui s'appelle Aéver, qui a gardé l'identité humaine une indifférenciée, et les nations qui sont autant de manières différenciées d'être homme, chacune avec son génie propre, avec sa spécificité propre, mais avec sa partialité propre. Et l'histoire de la relation entre l'humanité et le peuple d'Israël montre que l'humanité a diagnostiqué qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette identité hébraïque. Chaque fois que l'humanité est en quête d'espérance, à travers les grands moments de l'histoire, là il s'agit d'une histoire de près de 4000 ans, depuis le temps des Hébreux, elle a cherché les Hébreux. Chaque fois que l'humanité est en quête de salut, Et c'est finalement l'identité juive qui apparaît là comme modèle de salut. Peut-être que nous aurons à revenir sur cette notion dès les premiers versets que nous allons étudier, mais je veux simplement mettre ça en évidence, et que ce ne sont pas des thèmes littéraires, purs et simples. Bien. Il y a effectivement beaucoup de livres qui s'en servent de manière littéraire, beaucoup de livres qui paraissent sur les juifs, écrits par des juifs ou des non-juifs, et qui mettent en évidence ce paradoxe, un tout petit peuple qui semble avoir un destin à part, etc. Il y a plus que cela. Je vais vous citer un texte des évangiles. C'est pas mon métier, mais ça fait rien, c'est nécessaire. Bien. Ça se trouve dans Jean, j'ose pas dire Saint-Jean, mais c'est Jean. Et puis, qui fait parler les Samaritains, et qui disent, le salut vient des Juifs. Et c'est un verset des évangiles. Il n'y a pas écrit, le salut vient de qui vous savez, il y a écrit, le salut vient des Juifs. Et c'est un livre écrit par des Juifs. Mais il y a une espèce de reconnaissance, de consensus. Je crois que l'idée est claire. Bien. Mais il y a, du point de vue des événements de l'histoire d'Israël, une réalité qui fait que, et je le signale simplement en parenthèse, si la question vous préoccupe, on peut s'arrêter un peu parce que c'est un problème important, ce que j'appellerais l'universel juif, qui est en réalité un cosmopolitisme juif. Le cosmopolitisme juif est la preuve que cette identité qui nous vient des Hébreux peut être n'importe quelle manière d'être homme à la fois. Et c'est un cas particulier. Les Juifs sont n'importe quelle manière d'être homme s'ils le décident. Un Juif peut être français, il peut être allemand. Et quand il est français, il est très français. Et quand il est allemand plus. Ça, vous savez quoi. Et puis, ça peut aller jusqu'à un patriotisme local déconcertant. Le Juif peut être très alsacien et donc très auvergnat. Oui, vous commencez à découvrir un monde. Okay. Il y a des Juifs corses qui sont patriotes corses. Okay. Ça va très loin. Okay. Et d'ailleurs, au retour de l'exil, ça nous fait les 22 parties de la Knesset. Okay. Chacun représentant son goy préféré. Okay. Je ne sais pas si vous remarquez ce que je veux dire. Vous savez que tous les goyim ont un Juif préféré, mais il faut découvrir que les Juifs ont aussi leur goy préféré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on parle français. Ça ne va pas de soi pour les Juifs yéménites. Lequel est exotique ? Un Juif yéménite ou un Juif français ? Réfléchissez bien. Et c'est clair ce que je dis là ? Comment peut-on être persan ? Eh bien, ça c'est le fait de l'universel humain à travers le cosmopolitisme juif. Ces deux catégories de l'universel et du cosmopolite ne sont pas les mêmes. Mais je prends l'exemple du cosmopolitisme juif pour parler de l'universel hébreu. Est-ce que c'est un peu pas clair, hein ? J'ajoute quelques phrases si vous voulez. C'est ceci, c'est que tant que nous étions en diaspora et qu'en diaspora, eh bien, les juifs pourraient se réclamer de l'universalisme. Il y avait un fait masqué par la diaspora qui est qu'au fond, et d'ailleurs c'est déjà dans notre paracha, hein, vous allez le reconnaître quand on arrivera au sujet, lorsque Dieu interpelle Abraham sur la terre d'Israël. Et eh bien, il y avait quelque chose qui était caché, que les juifs parlaient d'universalisme, et puis on ne savait pas très bien si c'était du cosmopolitisme ou d'universalisme. À partir du moment où l'État d'Israël existe, c'est-à-dire où la société juive est redevenue la nation hébraïque, il se dévoile que peut-être pour énormément de juifs, surtout de diaspora, mais pas forcément que de diaspora, c'est pas de l'universalisme, c'est du cosmopolitisme. Est-ce que c'est suffisamment clair ? J'ai pas l'impression. Je sens que c'est difficile encore. Est-ce que quelqu'un pourrait me formuler la difficulté de ce que je viens de dire ? Ou alors c'est que c'est clair.
Peut-être définir ce que c'est que le cosmopolitisme.
Le cosmopolitisme, je vais vous donner un exemple. Il faudrait commencer par définir l'universalisme. J'ai bien senti qu'il fallait ouvrir cette parenthèse. Alors on va l'ouvrir quand même, ça vaut la peine. Okay. Parce que nous sommes, en tout cas ceux de ma génération, n'est-ce pas ? Nous sommes des juifs revenus d'exil, avec l'identité juive cosmopolite. et nous sommes en train de retrouver notre identité nationale, qui est une identité hébraïque. Et c'est un processus qui traverse l'histoire de la société israélienne en maelstrom. Tous les remous et les péripéties de l'histoire des quelques dizaines d'années de l'État d'Israël, c'est ce récit que nous sommes en train de lire comme modèle au commencement de notre histoire avec Abraham devenant Abraham, redevenant Abraham. Vous vous rappelez du cours de la semaine dernière, Ken ? Ce processus des Juifs revenus de tous les paysages des voyages d'Israël, et puis le juif de diaspora, c'était un hébreu en voyage. Et c'est pas parce que le voyage a duré longtemps que c'était pas un voyage. Est-ce que c'est clair, ce que je dis ? Quand le voyage dure longtemps, on oublie que c'est un voyage. Et pourtant, on se rappelle pieusement que c'est un voyage. L'année prochaine, à la maison. Mais le voyage a duré longtemps. Alors, nous revenons avec des identités de diaspora, et nous sommes en processus de réhébraïsation. Ce n'est pas simplement un problème linguistique ou culturel, c'est fondamentalement un problème d'identité nationale. Il y a une nation, la nation des Hébreux, dont la Torah a raconté l'histoire, et qui, en tant que nation, est universelle. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, un indice de cela, c'est le caractère cosmopolite des Juifs, qui sont les Hébreux de diaspora. Ils peuvent être n'importe quelle manière d'être homme. Ça veut dire réunir. Je vais prendre une image. Hein. Ce n'est qu'une image. Je crois, j'ai étudié un peu ces problèmes en ethnologie. C'est un peu plus qu'une image. Mais on ne va pas rentrer dans cette science-là, de l'anthropologie. J'ai l'impression qu'il y a un capital génétique de l'identité hébraïque et que les gènes correspondant à la spécificité génétique des peuples chez qui on vit, à la longue, apparaissent comme dominants chez les Juifs de tel ou tel paysage. Est-ce que c'est clair ? Je dois dire que j'ai dans mes dossiers un article assez extraordinaire qui est apparu il y a quelques mois en Israël. Un chercheur israélien a établi qu'il y a une maladie très rare qui est commune aux Juifs irakiens et ashkénazes. Je ne sais pas si je voulais signaler cela. Non. Je voulais signaler ? Oui, ben je vous le rappelle. Très brièvement. C'est vrai que nous avons une très longue histoire. Il y a eu une première dispersion du temps des Hébreux, des Judéens du premier temple. C'est la dispersion de Babel. Babel, c'est la région de l'Irak. Du moins, l'Irak, c'est une partie de la région de Babel. Et cet exil de Babel est un exil d'où procèdent les grandes communautés. Ce que je dis est très schématique, parce qu'à travers des siècles, il y a eu des brassages de communautés juives à travers toutes les catégories. Moi-même, comme vous savez, je suis sfaradi, je m'appelle Ashkenazi. C'est donc une histoire de brassage historico-géographique. Et je suis effectivement d'origine ashkénaze, mais très lointaine. Et pourtant, je suis sfarade, comme vous savez. Alors, indépendamment des problèmes existentiels que ça pose, les enfants vont bien, grâce à Dieu. c'est une histoire juive. Bon, ceci dit, il y a eu énormément de brassages. Mais cet exil de Babel, qui est la dispersion des Judéens du premier temple, est à l'origine de trois grands embranchements juifs. Les Juifs qu'on appelle les Bablim, c'est-à-dire essentiellement les Irakiens, Bagdad, les Juifs bagdadis, okay, les Juifs yéménites et les Juifs ashkénazes. Ces trois grandes communautés ont été fondées au temps de la dispersion du premier temple et ne sont pas revenues, en tout cas sinon les sionistes de ce temps-là, c'est-à-dire une poignée, au deuxième temple. Hein, ne sont pas revenus avec au temps des vrais de Néhémie à Shivat Zion. Il y avait différents indices de cela, en particulier la prononciation. L'hébreu ashkénaze, la prononciation ashkénaze de l'hébreu est beaucoup plus proche de la prononciation yéménite que de la prononciation sfaradite, je ne sais pas si vous savez ça. Le fait que le Yémen était dans l'empire de l'islam nous fait croire que les yéménites sont des sfaradim. Mais en réalité, ce sont des exilés du temps du Beit Rishon, la même souche ethnique que les ashkénazes et que les bablim, qui se sont trouvés dans l'ère culturelle islamique. C'est pourquoi ils sont d'un rite qui ressemble au rite sfarade, mais ce n'est pas le rite sfarade, le rite yéménite. Beaucoup plus proche quand même, parce qu'ils ont accepté comme possède le Rambam, Maïmoni. Mais leur identité, au niveau ethnique, ce mot-là ne veut rien dire pour une identité universelle, comme l'identité hébraïque. Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire, la différenciation par tribu est beaucoup plus proche entre Ashkenaz. Je me rappelle comment j'ai expérimenté ça la première année que je suis venu à Jérusalem. C'est l'époque de Tisha B'Av. Je suis allé faire Tisha B'Av dans une synagogue héménite de Mersherim, il y a très longtemps. Et puis, il y avait une petite synagogue à côté de Juifs en Roi, et qui ont fini la prière avant les Yéménites, qui sont venus rejoindre. Et alors j'ai vu, et on s'est familiarisé. Moi, je suis nord-africain de culture française, enfin espagnol, mais c'est pas grave, c'est pas loin. Et j'avais ce spectacle, les visages des Juifs yéménites et les visages des Juifs hongrois, c'est les mêmes, un dans le genre oriental et l'autre dans le genre occidental, mais c'est les mêmes. Et d'ailleurs, profondément, ils l'ont senti eux, puisque les Hongrois sont venus prier avec les Yéménites naturellement. Je ne sais pas comment dire. Et pourtant, Dieu sait que c'est différent au niveau folklore. Mais en fin de compte, l'identité est la même. Bon, notre histoire est très longue, il faut comprendre ça. Ce qui s'est passé. Je reviens donc à ce que je disais. Et alors, j'ai lu récemment un article d'une revue scientifique indiquant qu'on avait établi qu'il y a une maladie génétique qu'on ne trouve que chez les Juifs irakiens et chez les Juifs ashkénazes. Ça veut dire que cette mutation s'est déclarée à Babel avant l'exil au second degré des Juifs de Babel de ce temps-là en pays ashkénaze. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Bon, je referme la parenthèse. Alors, ça veut dire que finalement, cette identité hébraïque, à travers le temps de diaspora, est allée se fixer sur des paysages de l'universel humain. Mais l'universel humain, c'est une fiction. C'est un terme théorique des philosophes. Il n'y a pas d'homme universel. Il y a l'homme personnalisé, concret. Les latins disaient de hic et nunc, de ici et maintenant. Okay. On est monsieur un tel avec une carte d'identité très précise. Okay. Et même s'il y a dans les grandes métropoles, à cause des brassages d'immigrants, des gens qui ne savent pas vraiment comment se rattacher à quelle tribu humaine, finalement, ça c'est le erreur de l'humanité, il n'en reste pas moins que chacun est ce qu'il est, et on ne peut pas parler de l'homme en général où il est. J'ai compris ça une fois dans une conférence en Belgique, où il y a très longtemps, j'étais appelé par la communauté de Bruxelles à participer à un colloque avec un grand philosophe juif belge, qui s'appelait, j'ai oublié complètement, rappelez-moi son nom, les Belges.
Hein?
Lieberman. Non, pas Lieberman, ça ressemble. Et il était, c'est le chef de la synagogue athée.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez dit. C'est pas Lieberman, ça ressemble. Hein?
Oui. Non, mais...
Perelman. C'est un grand logicien et un grand moraliste rationaliste. Bon. Il avait fait une analyse. Il avait fait une analyse sur Spinoza en parlant de l'universalisme de Spinoza. Alors il avait fait une carte d'identité de Spinoza en montrant que c'était le membre d'une tribu batave d'Orange en Hollande, très spécial, un saucinien, si ça vous dit quelque chose au point de vue de la philosophie, et que cette espèce de catégorie philosophique de l'universel de Spinoza, c'est du saucinisme. C'est une petite tribu occidentale qui, bon, il y a des génies partout, hein, d'autant plus qu'il est juif d'origine. Mais alors, vous voyez le problème. L'homme universel, c'est une fiction philosophique. Il y a un idéal de l'identité universelle. Mais la Bible nous parle d'une identité concrète humaine, l'identité hébraïque qui porte en elle les véhicules de l'universel. Est-ce que c'est clair, Julien ? Et l'indice, c'était dans cette parenthèse que nous étions, c'est le caractère cosmopolite des Juifs. C'est-à-dire qu'un Juif peut être ou français, ou allemand, ou russe, ou polonais, et parfois tout ça à la fois. Je ne sais pas si c'est clair. Mais ça, ce n'est pas l'universel, c'est le cosmopolitisme. C'est-à-dire, c'est celui, et ça se dévoile, quand on ne fait pas partie d'une nation, alors on est de la nation des autres. C'est ça le cosmopolitisme. Est-ce que c'est clair, vous voulez dire ? Okay. Ce n'est pas l'homme cosmique, ce n'est pas l'homme universel, c'est une fiction littéraire de Jérôme Landon. Mais il y a, traversant l'histoire humaine, cette identité hébraïque dont la Bible a raconté l'histoire et qui a empoigné l'humanité entière. À travers le christianisme en Occident, à travers l'islam en Orient, à travers beaucoup de courants culturels, ça vous êtes habitués à découvrir cela. Et pourquoi les Juifs sont les Juifs ? Parce qu'ils sont originellement des Hébreux. Or, le problème de la société israélienne, c'est que les Juifs que nous sommes, revenus des paysages du voyage, redeviennent hébreux. Alors, ça, c'est la clé de tous les problèmes de politique extérieure et intérieure. Parce que c'est pas simple comme processus. C'est un processus de réengendrement de l'identité hébraïque. Or, c'est ce récit, le récit de l'histoire d'Abraham. Ce que nous lisons à la Torah dans ses parashiot, à partir de Lech Lecha en particulier, mais la fin des versets, dernier verset de Noir, c'est cette histoire-là. Et je vous rappelle la clé qu'on a déjà étudiée la semaine dernière. C'est une citation du Talmud, vous allez noter la citation et vérifier vous-même, étudiez-le. C'est la fin du premier chapitre de la Maseret Brachot, du traité de Brachot. Si je me souviens bien, ça doit être page 12a. Quelqu'un va me tirer une Maseret Brachot, j'ai pas la clé, mais c'est pas grave. Non, bougez pas, mais vérifiez. Ça doit être cette page-là. Si c'est pas 12a, c'est 11b ou 12b. Où la Gemara dit ceci. Il y a un verset dans les chroniques qui dit « Abraham, hu Abraham ». Les chroniques, c'est le dernier livre historique de la Bible, qui recommence la généalogie depuis le premier homme jusqu'à l'engendrement messianique. C'est là-dessus que s'est greffé le récit des généalogies qu'on a dans les évangiles. Bon, je ne parlerai pas des évangiles aujourd'hui, rassurez-vous. D'abord, ce n'est pas mon métier, mais on est obligé d'en parler en passant. Et alors, le verset dit ceci, Abraham ou Abraham, parce qu'il faut redécouvrir que ce grand personnage central de l'histoire d'Israël dès l'origine, mais qui a lui-même une origine, il est descendant de Hévé, du temps de la tour de Babel, lorsque, encore une fois, l'humanité une qui existait concrètement vraiment en ce temps-là, l'universel humain, a éclaté en nations les différentes manières d'être homme, et je sais que vous savez que c'est le problème de la civilisation. Comment faire que ces différentes manières d'être homme vivent ensemble, okay? Et c'est ce salut-là que l'humanité cherche. Eh bien, la Gemara dit que... rappelez-moi où je m'accroche, là. Qu'est-ce que je disais justement? Oui, descendant de Hévère. Et alors, cette identité hébraïque était en diaspora dans la civilisation du temps, qui était la civilisation de Babel, la région de l'Irak, l'Iran, le nord de l'Inde, tout ça c'était Babel, okay, de l'Antiquité. La Mésopotamie des historiens de l'Antiquité. C'était la civilisation du temps. Petite parenthèse, mais importante. Nous savons, d'après l'enseignement de la Torah elle-même, que le pays dit de Canaan est appelé le pays de Canaan parce qu'au temps de l'histoire des patriarches, il a été conquis par les Cananéens. Vous allez voir le verset dans la paracha d'aujourd'hui. Rappelez le mot que je vous donne tout à l'heure. Vers Canaani Asbaret. Au temps des patriarches, les Cananéens ont envahi ce pays qui était dans l'héritage de la lignée de Shem, l'ancêtre de Héber, au moment du partage des peuples, des pays selon les peuples. Et ce pays est appelé le pays des Hébreux. Mais là, ici, il y a une parenthèse importante dont je vous ai parlé la semaine dernière. Que faisaient les Hébreux ailleurs que chez eux? Vous retenez ce problème. Il va nous accompagner dans l'étude de ce soir. Eh bien, ça a été notre histoire pendant 4000 ans. Que faisaient les Juifs? Que font les Juifs ailleurs que chez eux? J'en ai parlé la semaine dernière. Une espèce de tendance à l'universel, c'est très schématique ce que j'ai là, qui fait que les Juifs font comme s'ils sont chez eux n'importe où. Alors il y a le retour de volant. Quand ils sont chez eux, on dit qu'ils sont chez les autres. Okay? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Okay? Mida keneged mida. Okay? On a fait semblant d'être chez nous, chez les autres. Alors quand on est chez nous, on fait semblant qu'on est chez les autres. C'est pas une blague. Ça s'attache à ce destin ambigu, ambivalent de cette nation spécifique qui a pour spécificité l'universel. Le monde entier réclame sa terre, le monde entier réclame sa ville. Le monde entier réclame son identité, et pendant ce temps, elle fait semblant d'être l'identité des autres. Est-ce que vous avez compris maintenant que c'est le cosmopolitisme juif? Bon, ça ne veut pas dire, ça n'implique pas des richesses culturelles, okay? Mais à quel prix? À quel prix? Lisez l'histoire juive. Et finalement, ça aboutit à un grand cimetière qui s'appelle le Musée de la Diaspora à Tel Aviv. Je ne sais pas si vous avez visité ce cimetière. Moi, ça me donne froid au nez. Hein, que ça a pu être cette richesse de 2000 ans d'histoire qui finit dans un musée. Hein. Bon, je referme la parenthèse, elle est triste. Hein. Et pour, nous sommes vraiment dans une génération caractéristique à ce propos. C'est la mutation qui se passe. Et Israël est en train de faire le bilan de sa préhistoire. Et ça s'appelle le musée de la diaspora. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. N'est pas visiter la diaspora après un stage en Israël. Vous allez voir que vous avez l'impression d'être dans un musée. Mais un musée de cire. Bon, je m'arrête là. Et j'avance. Comment on a été comme ça, nous, bobo? Je reviens aussi. C'est clair ce que je dis. Et alors, je me souviens donc de cet épisode à Bruxelles. C'était bien Perelman. Bien, tu l'as connu? Tu l'as connu?
Non.
Tu étais jeune.
Oui, c'est ça.
C'est vrai. Alors, on revient au sujet. La question à laquelle nous avons commencé le récit, c'est ceci. Il y a eu des événements qui ont fait que ces événements, c'était une Shoah. Les rescapés des Hébreux de la civilisation de Babel ont décidé de rentrer chez eux. C'était, si vous voulez, anachroniquement, le sionisme de ce temps-là, le sionisme du temps d'Abraham. Nous allons lire le récit et vous allez voir que, sans aucune révélation d'en haut, une famille, la famille d'Abraham, sous la direction du chef de famille, Terach, décide de quitter Ur-Kasdim et d'aller en direction du pays de Canaan. Alors, première indication, c'était là qu'on était arrivé la semaine dernière. Hein, de Crète, mais ils venaient de beaucoup plus haut. C'était des Européens, des Blancs d'Europe, qui ont envahi, et d'ailleurs, les Philistins, et les comptoirs des Philistins, et c'est une partie des Cananéens. Et il y a d'ailleurs une analogie avec les... Attendez que le nom me revienne. Les Carthaginois. C'est pas loin. Les Carthaginois. C'est un tout autre rameau humain. Les Berbères, les Basques, les Hongrois et les Finlandais, c'est le même rameau. Les Berbères, les Finlandais, les Hongrois, les Basques et les Berbères, c'est la même humaine. C'est ce que les Grecs appelaient des barbares, d'où Berbères.
Quelle famille sont
de chez? De Japhet. Les Berbères, bien fait. Pas de chien. Bon, alors je reviens en tout cas au sujet. Prenez le texte à partir du verset 31 du chapitre 11. Et ça nous posera la première question qu'on va étudier. Alors, le texte à partir du verset 31 du chapitre 11, la fin de la paracha de Noé. Si vous faites des voyages, que vous allez au Pays Basque, et si vous êtes de Kabylie, tu es mon regard, vous retrouvez les mêmes rythmes de musique. Et on les retrouve aussi jusque en Finlande. Bon, alors on revient au sujet. Voilà ce que dit le verset 31 du chapitre 11. Regardez bien. Dans le récit, dans l'ordre du récit, il n'y a eu aucune révélation de Dieu à Abraham. Alors, on nous raconte ce qui se passe. En fin de compte, il est arrivé un temps où les descendants de Hever, c'est Terach, il y a un Nahor, l'ancêtre, Terach, Abraham, Terach a eu trois fils, Nahor, qui a été nommé du nom de son grand-père, Nahor, Haran et Abraham. Okay? Et alors, on nous raconte que cette famille, c'est les rescapés des Hébreux, au temps de Nimrod, où il y a eu une Shoah. Le Midrash nous restitue ce qui s'est passé. C'était, si vous voulez, le nazisme de ce temps-là. Nimrod était le tyran de ce temps-là. Et où on jetait les Hébreux dans les fournaises de Ur-Kasdim. Ur-Kasdim. C'est quand même resté dans le folklore. La fournaise de Ur-Kasdim. C'était les chambres à gaz de l'époque. Le Midrash est impitoyable. C'est la mémoire de la tradition des Hébreux. Imaginez que les antisémites révisionnistes s'arrangent pour qu'on oublie complètement Auschwitz. Bien. Eh bien, alors vous aurez, dans 2000 ans, c'est de l'histoire fiction. Bien. Qu'est-ce que c'est que ces légendes des descendants de juifs qui nous racontent qu'il y avait des fours crématoires en Europe? Qu'est-ce que c'est que ces légendes du Midrash qui nous racontent qu'il y avait des fournaises à Ur-Kasdim? Vous voyez comment on oublie l'histoire. Est-ce que c'est clair? Je pense que ce n'est pas la peine d'analyser. Vous savez à quel point si vite, moi j'étais contemporain des événements, à quel point si vite il y a des problèmes universitaires. Les fours à gaz ont-ils existé ou pas? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce n'est pas une invention du Midrash. voilà comment ça marche. Alors en tout cas, il y a une famille qui rescapait de cela. Vaïkar Terar, et Terar prit Abraham son fils, Vaïtlot ben Aran ben Meno, et l'autre fils de Aran, son petit-fils, Vaïtsaraï Kalato, et Sarai sa bru, et Chet Abraham Beno, femme d'Abraham son fils, Vaïtse Ouïta Meur Kazdim, ils sortirent avec eux de Ur Kazdim, la Lechet Arsaknaan, pour aller au pays Canaan. Voilà ce que dit le récit. Alors, nous allons voir qu'entre-temps, Dieu va se révéler, au premier verset de notre paracha, à Abraham pour dire, quitte ta maison paternelle, tout ça, on va lire le verset, Lech Lecha. Okay? Entre-temps, Dieu va se révéler à Abraham pour confirmer. Mais vous voyez l'événement, le rythme de l'événement, initiative qui vient de la famille de Terar, provoquée par Abraham, de déconnecter la situation de Babel, qui était devenue ce qu'elle était devenue, c'est les rescapés de la Shoah de ce temps, et qui vont au pays de Canaan. Pourquoi? Ils rentrent chez eux. Alors ils savent où ils vont. Lorsque c'est exactement les délibérations du congrès de Bâle, où est-ce qu'on rentre? En Ouganda ou en Eretz Israël? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce temps-là. Et quand on a failli aller dire Amin chez Dada, enfin en Ouganda. Et qu'il y avait un chant dans les mouvements de jeunesse. Vafalpichen, Velamrotakol, Eret Israël. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce temps-là. Vous ne vous rappelez pas les anciens. Je te rappelle. C'est-à-dire, et en dépit de tout, et racontez tous vos boniments, on ira en Eret Israël. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de rentrer chez soi, alors on sait où c'est. C'est clair. Hein? Et effectivement, entre-temps, premier verset de la paracha, donc du chapitre 12, Vayomer Hashem el Abraham, et Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, va pour toi, c'est pas va-t'en, lech lecha. Et Rashi va expliquer pour ton bien. Mertzecha de ton pays, mimolatecha de ta patrie, nivetavicha de ta maison paternelle, et la haaretz asher areka, vers le pays que je te montrerai. Regardez bien le raisonnement. C'est incompréhensible. Va vers un pays que je te montrerai quand tu arriveras. Ça veut rien dire. Et tout le monde lit comme si. C'est Dieu qui a dit à Abraham, va au pays de Canaan. Il ne lui a pas dit ça. Le récit dit, cette famille a décidé d'aller au pays de Canaan. Et puis en chemin, il y a une discussion chez le Mefarshim. Est-ce que cette révélation de Lech Lecha a été dite à Ur Kasdim ou à Haran, une étape où s'était arrêté une première fois Terar? Il avait fait une petite incursion au pays de Canaan. Et ensuite, il est revenu à Haran. Je ne sais pas, un peu comme il y a des Aolim qui, avant de faire leur alia, viennent avec Tour Berhalé, ou je sais pas quoi, enfin une petite mission, comment ça s'appelle ça, de Tnouat à Alia, et puis ils viennent de Marseille à Tel Aviv et retour. C'est comme ça qu'a fait Terar, c'est le premier sioniste de l'histoire, et il est venu faire un petit tour en Eretz Israël et retourner à Haran, fonder la fédération sioniste à Haran. Et vous savez que c'est comme ça que ça marche. Vous savez qui est à la tête de la fédération sioniste dans les villes de diaspora? En général, un Yoren. Vous savez pas ça? Bon. En tout cas, vous les rencontrez dans l'ascenseur. Olé, Yoren. Olé, Yoren. Et allez-y à vous. Bon, alors on revient au sujet. Entre-temps, donc, Dieu confirme à Abraham, c'est là qu'il faut aller. Nous allons étudier un texte du Midrash qui montre que le Midrash a posé la question, et à travers cette question, on nous enseigne que, en fait, la révélation de Lech Lecha, le verset que je viens de lire, le premier verset du chapitre 12, concerne le fait d'aller au Har HaMoria, là où aura lieu la scène dite faussement du sacrifice d'Isaac. Et donc, on comparera les deux versets, je veux dire tout de suite où ça se produit, où ça se trouve, c'est dans la paracha de Vayera. Chapitre 19, il me semble, mais je veux dire ça tout de suite. Non, c'est pas 19, ça doit être plus loin. C'est 23, peut-être, attendez, une minute. 22. Alors, prenez le chapitre 22. Vous allez prendre le verset 2 du chapitre 22 et vous lire en hébreu. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham pour dire « Tu vas prendre ton fils bien-aimé, Isaac, Vayomer. » Et il dit, verset 2 du chapitre 22, « Tachna et Bincha, prends donc ton fils, et Techitra, ton unique, Asher Ahavta, que tu as aimé, et Tisraq, Isaac, Velech Lecha, et l'Eretz à Moria, et va pour toi au pays de Moria. » C'est sur la montagne de Moria qu'aura lieu la scène, qu'on étudiera à ce moment-là. C'était pas un sacrifice, c'était l'épreuve d'Abraham, c'était pas une épreuve pour Isaac. On étudiera cela en hébreu, ça s'appelle Akedat Yitzhak, le fait que Abraham a lié Isaac sur l'autel. Que représente cette scène? C'est pas maintenant qu'on va l'étudier, mais en tout cas, l'intitulé en français Sacrifice d'Isaac est deux fois beau. Bon, je referme la parenthèse, on verra ça en ce temps. Et alors, nous allons prendre le texte qu'on vous a distribué pour établir donc la question suivante. La famille d'Abraham va d'elle-même au pays de Canaan. Dieu n'a pas indiqué à la famille d'Abraham à quel pays il doit aller. En réalité, cette incidence du verset de l'Echlecha, c'est pour lui indiquer que son retour de l'exil va le mener à la scène du Moria. Est-ce que c'est bien clair, formellement, okay? Par conséquent, nous allons étudier ce texte et ensuite, ça nous posera la question suivante, puisque, d'après tout ce qu'on a appris jusqu'à présent la semaine dernière et déjà un peu aujourd'hui dans le rappel, ce pays, c'est le pays des Hébreux, Abraham rentre chez lui, pourquoi il est nécessaire que Dieu lui promette tant de fois que ce pays, il le donnera à sa descendance, puisque c'est le sien? Pourquoi il est nécessaire qu'il y ait une telle répétition de la promesse? Et c'est plus qu'une promesse, c'est un serment. C'est pas le pays que j'ai promis.